Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique.
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. C'est au langage et au langage seul que les entités fictives doivent leur existence, leur impossible et néanmoins indispensable existence. C'est au juriste et philosophe anglais Jeremy Bentham, le père de l'utilitarisme, que l'on doit ce propos à la fois imaginatif et précis qui date de 1814. On pourrait les compléter en précisant que le langage, pour poursuivre ce but, se sert de métaphores du corps. Comme nous le savons, en tant que matrice des métaphores, le corps agit de deux manières différentes. D'une part, il constitue l'instrument de base de chaque être humain. Nous faisons donc l'expérience du monde grâce à nos organes de sens et cela façonne aussi en partie notre imagination. Notre expérience du temps, par exemple, est appréhendée principalement en termes d'espace et des mouvements. Le temps que je prends pour me rendre au Collège de France et ensuite dans cette salle, je le vis comme un mouvement et chaque pas, je le ressens comme un segment du temps qui passe. Et je pense que cette image de Étienne-Jules Marais, qui a été utilisée pour l'affiche pour les initiatives autour des Jeux Olympiques au Collège de France, rend très bien l'idée, même son nom, on parle de cette technique, permet de prendre plusieurs images du même sujet dans un intervalle court de temps. On appelle ça la chronophotographie. Donc, il y a la photographie du temps. Et cela nous permet de voir pourquoi notre imagination est façonnée de cette façon physique qui nous fait envisager le temps comme un mouvement. Et ça me permet aussi de vous convier chaleureusement à cette initiative jeudi prochain. Alors, nous avons donc l'impression d'être au centre d'une ligne temporelle, le futur étant représenté par des objets, des événements qui sont devant nous, et nous allons vers eux, ou bien ils viennent à notre rencontre, tandis que les objets et les événements du passé sont derrière nous. D'où des expressions comme « le printemps approche » ou « les vacances sont désormais derrière nous ». Cette métaphore peut suggérer aussi le titre d'un livre ou le début de la Divine Comédie. Au milieu du chemin de notre vie. Donc, temps, c'est un voyage, c'est un chemin. On qualifie ce type de métaphore d'incarné, car c'est comme si nous pensions par les biais de notre corps, de notre chair. Par ailleurs, je suis sûr qu'ayant suivi les deux premiers cours, vous êtes bien conscient de la distinction à faire entre la métaphore conceptuelle et l'expression métaphorique qui la réalise. Le temps est un mouvement, constitue une métaphore conceptuelle qui est pour ainsi dire abstraite et inexprimée. Le printemps approche, en revanche, est une réalisation linguistique de la métaphore conceptuelle. Le corps agit comme une matrice de métaphore d'une deuxième manière, c'est-à-dire en tant qu'image constituant le domaine source, permettant de décrire quelque chose d'autre. Par exemple, lorsque sur des monnaies, Rome, en tant que communauté civique, est représentée comme une femme. À remarquer qu'ici, il y a une double corporisation, si je ne me trompe pas, car cette femme donne sa tête d'abord à une déesse, la déesse Rome, qui à son tour donne son visage à la cité de Rome. Ce sont des métaphores corporelles, plus spécifiquement des prosopopées. Les deux rôles que je viens de vous présenter pourraient se résumer par une double conjugaison du corps. Il y a le corps, pour ainsi dire, à la première personne. Nous produisons des métaphores par une approche expérientielle du corps, à la fois vécu, en train de vivre, sensible. C'est la métaphore incarnée. Il y a d'autre part le corps à la seconde personne en tant que corps perçu, analysé, étudié, désiré par autrui ou par nous-mêmes dans une attitude réflexive. D'ici viennent les métaphores corporelles. Jusqu'à présent, nous avons presque tenu pour acquis que le corps était le corps humain. Ce n'est pas forcément le cas. Tout d'abord, il peut s'agir du corps d'animaux, non humains. C'est une forme d'imagination qui n'affecte pas seulement le langage verbal, mais bien aussi les arts décoratifs, comme dans le cas de la Cista Ficoroni, ce coffre cylindrique destiné à contenir les articles cosmétiques, les bijoux d'une femme découverte dans une nécropole près de Préneste, une ville située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Rome. Il date d'environ 350 ou 330 avant Jésus-Christ. Ce coffre est pourvu d'une poignée anthropomorphe, c'est vrai, mais il a aussi des pattes de lion écrasant un crapaud. Par ailleurs, le terme de corps est beaucoup plus large que celui des parties matérielles constituant l'organisme humain ou animal. Alors, procédons dans l'ordre. Le latin corpus dérive probablement du proto-indo-européen. Sa signification première est en fait les corps humains, du point de vue de son anatomie et de son aspect extérieur, par opposition à l'esprit. Après tout, on sait très bien que les anciens comprenaient le corps comme ayant comme élément primaire la terre et l'âme ayant comme élément primaire l'air. Mais de façon extensive, corpus en est venu à désigner les corps des animaux autres que l'homme, de tous les êtres vivants organisés, puis à indiquer tout objet matériel, quel qu'il soit. La polysémie du terme corps était telle qu'à un moment donné, les anciens ont tenté de le définir. Qu'est-ce qu'un corps ? Pour nous également, ce n'est pas évident d'en donner une bonne définition. Alors, c'est quoi de mieux que de tester cette définition sur un cas précis, celui de la voix. La voix est-elle un corps ? C'est Olugel qui nous présente un résumé de la question dans une de ces pages un peu paradoxales où cet écrivain du IIe siècle après Jésus-Christ fait étalage de toute son érudition, puis feint de considérer que les choses dont il traite sont des futilités au moment même où c'est lui qui nous en parle. Son ouvrage s'appelle Nuisatique, parce qu'il prétend l'avoir écrit pendant les longues soirées d'un hiver à Athènes pour souligner que sa journée était en revanche consacrée à des occupations plus importantes. Alors, lisons le texte. Une question de portée générale qui a été débattue longtemps par les philosophes les plus célèbres est de savoir si la voix est un corps ou un incorporel. Certains ont en effet forgé ce mot correspondant exactement au grec asomaton. Or, un corps est ou ce qui agit ou ce qui subit, étant défini en grec comme to etoipoiun epaskon, ce qui agit ou est agi. Souhaitant évoquer cette définition, le poète Lucrèce a écrit « car touché » ou être touché, rien ne le peut, sinon un corps. Les Grecs définissent le corps d'une autre manière aussi, comme to triche diastaton, c'est qui a trois dimensions. Mais les stoïciens soutiennent que la voix est un corps et disent que c'est de l'air qui a été frappé. Platon, cependant, pense que la voix n'est pas un corps, car, dit-il, ce n'est pas l'air qui est frappé, mais c'est les coups et les chocs eux-mêmes qui sont la voix. Démocrite, à sa suite Épicure, déclare que la voix est constituée de particules individuelles et ils l'appellent, pour reprendre leur propre terme, rheuma atomon, un flot d'atomes. Lorsque j'entendais ou je lisais ces théories et d'autres semblables, aiguillons d'une paresse subtile et agréable, sans voir dans ses bêtises ni aucun gain pour la conduite de vie, ni aucune fin à l'enquête, j'approuvais ce que dit le personnage de Néoptolème, mis en scène par Ennius, qui parle ainsi, philosophons, mais un moment, car s'y consacrer complètement, c'est là, je ne l'apprécie pas. Le texte évolue sur deux plans, d'une part la notion de corps, d'autre part la manière dont les anciens concevaient physiquement la voix. Concernant la notion de corps, Olugel nous en donne deux définitions, en réalité, dans ce texte. La première repose sur la perception sensorielle. Le corps, première définition, est ce qui agit sur d'autres corps ou sur lesquels d'autres corps agissent. Lucrèce le dit très bien, ce qui touche ou peut être touché. Alors, encore une fois, je souhaite attirer votre attention sur le fait que les anciens entremêlaient dans leurs textes, dans leurs explications de toutes sortes, de toute nature, l'évocation de textes littéraires, normalement de la poésie, qu'ils évoquaient par un vers, quelques mots. Alors, ça implique qu'il y avait une culture partagée, assez commune, assez large, et donc aussi le fait qu'il y avait vraiment un lien très étroit entre la culture que nous considérons comme littéraire et d'autres formes de spéculation intellectuelle. Alors, cette première définition met l'accent sur les critères de la matérialité. Toucher, être touché, substance palpable. Seconde définition, pour ainsi dire, géométrique, spatiale. Un corps est ce qui a trois dimensions. Ce qui suit prend en considération les deux définitions en lien avec des différents conception de la phonation. Donc il y a deux définitions de ce qu'est un corps et des différentes conceptions de la phonation qui sont mises en relation avec ces deux différentes définitions. Alors, par rapport à la première définition, un corps est ce qui touche ou peut être touché, les stoïciens ont besoin de dire qu'il est un corps, que la voix est un corps, parce que c'est de l'air qui a été frappé. Vous comprenez, c'est un corps justement parce que l'air a pu être touché. C'est un corps passif. Platon n'est pas du même avis. D'après lui, la voix n'est pas l'air frappé, mais c'est la percussion elle-même. Donc, c'est incorporel. C'est un peu subtil comme distinction, il faut l'avouer. Deuxième définition, donc un rapport à la deuxième définition, géométrique ou spatiale, trois dimensions. Démocrite et Épicure, c'est-à-dire les philosophes matérialistes, affirment que la voix est un corps parce qu'elle a la consistance, pourrions dire tridimensionnelle, d'un flux d'atomes. On peut partager l'agacement manifesté par Ennius et par Olugel lui-même, qu'il évoque, à l'égard des spéculations philosophiques excessives. Parfois, force est de constater qu'un excès de spéculation philosophique cache, comme c'est le cas ici, une compréhension incomplète des phénomènes qu'elle est censée nous aider à comprendre. En d'autres termes, si l'on parle trop, c'est que l'on n'a pas assez à dire. D'une certaine manière, l'idée que nous faisons aujourd'hui de la phonation est un mélange de deux perspectives anciennes. La voix est une onde sonore, c'est-à-dire une vibration produite par les cordes vocales, appartenant à la catégorie des ondes mécaniques longitudinales. Elle se propage grâce aux particules de matière de son milieu, normalement l'air, qui nous entoure, en créant des zones de compression raréfaction, c'est une onde, et l'onde sonore ensuite captée par les pavillons de l'oreille produit à son tour une vibration qui est décodée par le cerveau. Dans des cas de ce genre, on peut dire que la physique moderne est une continuation de la philosophie ancienne avec plus de précision. Mais si nous revenons à nos soucis métaphoriques, ce passage nous amène une prise de conscience. Ça a été une prise de conscience pour moi, j'espère aussi pour vous, Tout d'abord, il nous présente la notion de corps dans toute son extension. Il ne s'agit pas seulement du corps humain ou de l'organisme animal, mais de tout objet dans sa matérialité, sa tridimensionnalité. Surtout, le texte d'Olugel nous aide à prendre conscience du fait que le corps constitue l'image incontournable aussi pour dire son contraire. Pour dire le contraire du corps. En effet, lorsqu'on parle d'incorporel, en grec asoma, on se borne à utiliser les mots corps avec un préfixe de privation. Incorporel n'est autre chose que le concept symétriquement inverse du corps. On ne peut penser une entité réelle ou imaginaire que si on lui donne ou on lui refuse un corps. C'est ce qu'ont fait les juristes romains, en particulier Gaius, dans ses Institutes, écrit vers 161 après Jésus-Christ. Parmi les choses, certains sont corporels, certains incorporels. Sont corporelles celles qu'on peut toucher, exemple, un terrain, un esclave, un vêtement, de l'or, de l'argent, et ainsi de suite, beaucoup d'autres. Sont incorporelles les choses qu'on ne peut pas toucher, telles les choses qui consistent en un droit, comme un héritage, un usufruit, les obligations de quelque manière qu'elles aient été contractées, et peu importe, alors vous voyez ici il y a une définition, ensuite il y a une justification si vous voulez, peu importe que la succession, l'héritage, contienne des choses corporelles, en effet aussi les fruits qu'on retire du fond sont corporels et ce qui nous est dû en force de quelque obligation est généralement corporel, par exemple un terrain, un esclave, de l'argent. Donc, distinction entre l'obligation elle-même et ce qui est dû en lien avec l'obligation. Ce qui compte est que le droit de succession, l'héritage lui-même, ainsi que le droit d'usufruit, les droits d'obligation, sont en eux-mêmes incorporels. Alors, il y a des textes, il ne vaut pas la peine de commenter parce qu'on les obscurcit. Gaius, extraordinaire enseignant, possède cet art au plus haut degré. Je me borne donc à souligner que sa définition des choses corporelles et incorporelles recoupe la première des deux définitions que nous avons lues dans Olugel, celle fondée sur la matérialité. Gaius utilise presque les mêmes mots de Lucrèce lorsqu'il dit « quetangi possunt »,« quetangi non possunt ». Vous voyez, c'est vraiment le même, même vocabulaire, même image de Lucrèce. Donc, il avait en tête la même image, mais les juristes ne procèdent pas de la même façon d'un érudit comme Olugel qui étale toute son érudition. Donc, ils intègrent les images, les concepts, ils les retravaillent et donc ils produisent un savoir nouveau, tandis que c'est moins digéré dans Olugel. Mais vous voyez, il y a la même conceptualisation sous-jacente. Donc, on voit ce lien. Quelle est la portée de cette catégorie ? Chose corporelle, incorporelle. Alors, disons tout de suite, dans les Instituts de Gaius, il s'agit d'une distinction didactique, plus qu'autre chose. Gaius en fait notamment la composante d'une triade qui se veut exhaustive du droit romain, persona res actiones. Cette triade lui permet d'embrasser le contenu du droit tout entier et de le présenter dans son manuel, les Instituts. Cela est possible justement dans la mesure où, sous la notion de res, de chose, Gaius peut inclure à la fois les choses corporelles et des figures incorporelles, tels les droits réels limités, l'hérédité, les obligations. L'articulation des choses corporelles, incorporelles, res corporales, res incorporales, constitue donc un récipient, une boîte, qui permet de mettre ensemble des choses visibles et des choses invisibles. Alors, vous allez vous dire, mais c'est vraiment, ça c'est quelque chose dont on ne voit pas vraiment l'utilité, un peu comme au Lugel, est-ce qu'il y a un lien avec nos préoccupations? Bien évidemment. Vous voyez que ça survit, cette catégorie, parce que c'est justement le titre du décret 2023-9 du 6 janvier 2023, instituant un régime d'aide en faveur des investissements en actifs corporels et incorporels des entreprises de production de semences forestières. Je ne vous propose pas l'exégèse de ce texte, mais ce serait intéressant. Alors, parmi les culteurs du droit romain, il y a une discussion acharnée. Est-ce que c'est Gaius qui a inventé cette conceptualisation, ce schéma chose corporelle, incorporelle? Je trouve cette discussion plutôt bizarre, puisque le passage d'Olugel, Olugel et Gaius sont presque contemporain, le passage d'Olugel suffit à lui seul à montrer que cette catégorie avait une longue histoire. D'abord en Grèce, ensuite à Rome, où elle avait été importée au moins à l'époque de Lucrèce, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. En plus, chez Cicéron et chez un juriste philologue que je considère comme étant de l'époque augustéenne, Ilius Gallus, la catégorie des choses incorporelles est déjà explicitement appliquée au droit. Alors vous pourriez vous demander pourquoi, donc, si on a des témoignages, on discute si c'était Gaius. Très, très compliqué de vous l'expliquer, mais c'est parce que les historiens du droit ont tendance à considérer que les juristes travaillent de façon isolée. Donc, ils pensent que tous ceux qu'ils pensent viennent d'eux et qu'ils n'ont pas des rapports, disons, culturels avec d'autres champs discursifs dans le monde où ils vivent. Et donc, c'est pour ça que ce genre de dispute historiographique n'est pas vraiment intéressante en tant que telle, mais, disons, sur le fond, mais parce qu'elle montre un peu notre attitude vis-à-vis de l'histoire du droit. Donc, alors, ce texte de Gaius, par ailleurs, me semble tracer une ligne assez intéressante, une ligne évolutive. Alors, d'une part, la pensée juridique tend à construire ces concepts à l'aide d'images corporelles. C'est un peu le sujet de mon cours. Dans le texte de Gaius, on le voit très bien, parce qu'il parle d'obligation. L'obligation est une idée fondée sur la métaphore du lien. Ça, on le sait très bien. Le débiteur est obligé de faire quelque chose pour le créancier. C'est comme s'il était son prisonnier. Cette idée est élaborée en termes de liens, de contraintes, d'emprisonnement, justement. Puis, dans une étape ultérieure, cette idée est transférée dans la catégorie des choses incorporelles. Donc vous voyez, il y a un moment où cette idée est exprimée par le biais d'une métaphore corporelle. Ensuite, on essaye de la classer par le biais d'une conceptualisation un peu plus abstraite. Justement, l'idée de choses incorporelles qui est presque, disons, par excellence, une idée abstraite, désincarnée. C'est comme si la métaphore était une première manière encore inconsciente de construire des concepts, alors que la création de la catégorie de la chose incorporelle est une manière plus évoluée, plus engagée d'un point de vue théorique. Les deux approches ont en commun de s'articuler d'une manière ou, de ou d'une autre autour de l'idée de corps, même si c'est pour la nier. Mais, si l'on veut, elles montrent une mentalité différente pour parler du droit. L'une, la première, plus irréfléchie, avec une tendance à la corporisation, l'autre, plus abstraite. Alors, cette oscillation permanente entre abstrait et concret que nous avons essayé de suivre peut prendre aussi une autre direction. C'est le cas lorsque un ensemble d'individus, disons par commodité un ensemble d'hommes, de femmes, est conçu à son tour comme un seul corps. C'est une idée qui nous est encore familière, par exemple quand nous parlons de corps électoral ou des grands corps de l'État, ou quand on dit corps d'armée. Et on le sait bien, toutes ces entités ont un esprit de corps. C'est une idée qui revient maintes fois à Rome. Tout le monde se souvient de l'apologue des membres et de l'estomac. J'ai dû l'évoquer parce que je savais qu'il y aurait eu quelqu'un qui m'aurait dit « mais vous n'avez pas parlé de ça ». Donc je vais faire tout de suite. Les membres du corps humain, voyant que l'estomac restait oisifs, séparèrent leur cause de la sienne et lui refusèrent leur office. Vous vous souvenez, c'est le moment où il y a eu une sorte de rébellion de la plèbe par rapport aux patriciens 494 avant Jésus-Christ. Donc cet apologue prend l'image du corps. Alors, donc, les membres du corps humain se refusent d'alimenter l'estomac, mais cette conspiration les fit bientôt tomber eux-mêmes, les membres du corps, en langueur. Ils comprirent alors que l'estomac distribuait à chacun d'eux la nourriture qu'il avait reçue et rentrèrent en grâce avec lui. Ainsi, le Sénat et les peuples, qui sont comme un seul corps, périssent par la désunion et vivent pleins de force par la concorde. Je vous propose ici un autre exemple de la même métaphore par laquelle Tite Live décrit le rôle de Romulus comme législateur qui produit à la fois la naissance du droit et du peuple. Après avoir accompli les sacrifices selon le rite convoqué, il y a toujours la religion, hein, et convoqué à l'assemblée la foule qui ne pouvait se fondre en un corps d'un seul peuple que grâce à des lois, il lui donna des règles de droit. Je tire de cette métaphore que les lois sont l'âme du corps, l'âme d'un peuple. Disons-le tout de suite, ce genre de métaphore qui fait le lien entre une communauté et un organisme, ce qu'on appelle en anglais le « body politic », est la plus connue des métaphores corporelles, disons, dans le domaine juridique institutionnel. Il existe une littérature immense. C'est précisément parce que, pour cette raison, que je ne la traiterai pas cette année, d'autant plus qu'elle concerne essentiellement le droit public. Moi, je m'intéresse plutôt au droit privé, parce que je vois une continuité entre les droits privés et notre propre façon d'articuler, de dire le droit. Néanmoins, je ne pourrais éviter de me référer de temps à autre à cette métaphore du corps politique, car elle finit par s'immiscer un peu partout, nous allons le voir. Alors, nous nous en rendons compte, c'est à la toute dernière partie de cette séance, en lisant un texte qui touche à l'une des institutions les plus importantes, la famille. Et c'est Ulpien, ce juriste actif dans la première partie du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui nous en parle. Nous connaissons ce texte par le biais du Digeste. Alors, le contexte alors, il y a toujours un contexte pour chaque texte juridique. C'était probablement une explication liée à la notion de famille dans le cadre de la succession du patron à la franchise. Mais nous ne connaissons pas vraiment ce contexte. En plus, ce texte est éloquent en lui-même. Alors, l'entrée en jeu, nous voyons ici, souligne que le mot « familia » ne se réfère pas seulement à des personnes, c'est un peu surprenant, mais aussi à des choses. C'est un constat, disons, Ulpien, par cette entrée en jeu, essayer un peu de, disons, d'étonner effectivement son lecteur, justement pour montrer à quel point le mot « familia » est polysémique. Alors, lisons, voyons comment est comprise l'appellation « familia » et en effet, elle est comprise de manière variée car on l'emploie à la fois pour des choses et pour des personnes. Pour des choses, par exemple, par ces mots de la loi des 12 tables, vous voyez, toujours l'évocation d'un texte prestigieux, ancien, l'agneau le plus proche aura la familia. Donc j'ai laissé en latin, parce que justement, familia ici, l'agneau le plus proche aura la familia. Dans ce contexte, au moins Ulpien nous dit, le sens est patrimoine. En revanche, le mot « familia » se réfère à des personnes lorsque la même loi des 12 tables parle d'un patron et d'un affranchi de cette famille, ex familia, ad familiam, inem familiam, à cette famille. Alors, il est certain, conclut Ulpien, que dans ce cas, la loi parle de personnes comprises individuellement. C'est très important, on va voir pourquoi. Alors, commentaire très, très limité. Alors, il se réfère, Ulpien, à la loi de 12 tables. Ulpien écrit, début du 3e siècle après Jésus-Christ, loi de 12 tables, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez le prestige de l'Antiquité. Il retrouve que dans la loi de 12 tables, il y a une signification, disons, patrimoniale. Il s'agit des choses, la famille indique des biens. Mais il y a aussi un second sens, famille au sens de personne. On discute, comme vous voyez, la citation est très réduite, restreinte, donc on ne comprend pas vraiment quel était le sens de cette norme de la loi des 12 tables. Mais ce que Ulpien, lui, comprend de ce texte, c'est ce qui nous intéresse, il fait signe que pour lui, cette expression veut dire le patron et l'affranchi, d'une certaine façon, et qu'il s'agit de personnes individuellement comprises. Et c'est pour. Il insiste là-dessus parce qu'il veut introduire la suite de son texte. Le nom de famille renvoie aussi à la signification d'un type de corps. Donc, il y a là une troisième signification, chose, personne conçue individuellement, famille comprise au sens d'un type de corps, qui repose soit sur un droit qui leur est propre, soit sur le droit commun de toute la parenté. Par famille qui repose sur un droit propre, nous entendons plusieurs personnes qui sont sous le pouvoir d'une seule personne, soit par nature, filiation biologique, soit par le droit, adoption, comme le père de famille, la mère de famille, fils de famille, la fille de famille, ceux qui suivent à leur tour, par exemple les petits-fils, les petites-filles, etc. Mais est appelé père de famille celui qui a la domination dans son domaine. Donc j'ai essayé de rendre le jeu de mots latin, indomo dominium, domination dans son domaine. Il est appelé à juste titre par ce nom, père de famille, aussi au cas où il n'est pas de fils. Car par ce nom, père de famille, pater familias, nous indiquons non seulement sa personne, en tant que père d'enfant, mais aussi sa condition juridique. Par conséquent, nous appelons père de famille aussi en pupille. Alors, vous voyez ici un peu la façon de procéder d'Ulpien. Donc, il explique que même si un père de famille n'a pas des enfants, il est quand même considéré comme potentiellement un père de famille, parce que c'est son pouvoir qu'on regarde. Et pour rendre la chose encore plus évidente, il fait un cas presque, disons, absurde. Il dit, même en pupille, c'est-à-dire quelqu'un dont les parents sont morts, qui n'a pas de père de famille, qui a son pouvoir sur lui, on l'appelle père de famille. Pourquoi c'est un peu paradoxal? Parce que justement, le pupille, c'est un impubère qui ne peut pas engendrer d'autres enfants. Mais il est appelé père de famille. C'est pour souligner que cette définition est une définition juridique. On envisage une personne par le biais de sa condition juridique, sa condition de pouvoir. Et quand le père de famille meurt, tous les capita, tous les chefs qui lui étaient soumis commencent à avoir des familles séparées, car tous endossent le nom de père de famille. Il en sera de même chez l'émancipé, car même celui-ci étant devenu de son propre droit, il a sa propre famille. Même mouvement, idée générale, et ensuite, disons, une sorte de corollaire encore plus poussé. Pourquoi? Parce que normalement, il a parlé de cet éclatement de la famille, autant de chefs qu'il y avait de personnes soumises au pouvoir du père de famille, quand il meurt. Mais il dit que ça devient aussi lorsqu'il y a une émancipation, c'est-à-dire quand quelqu'un sort du pouvoir de son père, du vivant de son père. Donc ce n'est pas seulement quelque chose qui arrive à la mort du père de famille, mais qui peut arriver aussi du vivant du père. Donc c'est encore une fois une façon de souligner qu'est-ce que le droit peut, dans un contexte qu'on pourrait croire relever complètement de la nature. Ensuite, nous définissons famille qui repose sur un droit commun. Vous vous souvenez qu'il avait, disons, fait une division en deux types de famille, proprio iure et communi iure. Donc, il vient de parler de la famille qui dépend du pouvoir d'un père. Et ensuite, il parle d'une famille qui dépend d'un droit commun. C'est un peu plus compliqué de comprendre à quoi il pense. C'est celle de tous ceux qui sont agna. Car même si à la mort du père de famille, chacun aura une famille séparée, cependant, tous ceux qui ont été sous le pouvoir d'un seul seront à juste titre appelés de la même famille, étant issus de la même maison, domus, et de la même gens. Alors, Ulpien présente ici une troisième et quatrième notion de famille. Ce que ces deux notions ont en commun entre elles et avec la notion précédente, celle qu'on a vue dans le fragment du départ, qui se référait au patron à la franchie, il s'agissait de personnes comprises individuellement. Alors, ce que cette troisième, quatrième définition a en commun avec la deuxième définition est qu'il s'agit des personnes, familia en tant que personne. Non pas des choses, Mais la différence est ici qu'on ne parle plus de personnes individuelles, patron affranchi, mais d'un corpus plurium personarum, d'un corps de plusieurs personnes. Ces deux mots clés, corpus et persona, se trouvent côte à côte dans une combinaison particulière. Ici, la personne n'est pas encore et n'a pas encore, mais la famille l'est, est encore et a encore. En ce sens que chaque famille est un petit groupe social dans lequel des personnes interagissent. Alors, comme Ulpien procède méthodiquement pour tenter d'expliquer ce qui signifie la famille, faisons pareil. Il a parlé d'abord de familia comme res, donc vous voyez cette façon de procéder, disons, par division progressive. D'abord, donc, familia, il y a cette première division des choses, des personnes. D'abord, c'était les patrimoines dans la loi de 12 tables. Ensuite, il y avait cette distinction, oui, familia comme des personnes, mais ça peut se référer à des individus particuliers ou un groupe qu'il nomme corps. Ensuite, ce corps peut être défini par des liens de pouvoir, c'est-à-dire on a la famille qui est sous le pouvoir actuel d'un père de famille, c'est la première partie de notre texte, où il y a cette famille élargie composée par tous ceux qui étaient sous le pouvoir d'un père de famille, mais que, à suite de sa mort, se retrouvent tous dans la position d'un chef de leur propre famille. Alors, revenons au texte. On a bien compris que ce qu'Ulpien considère en temps par la notion de famille qui repose sur un droit propre, c'est un corps régi par le pouvoir d'un père. Donc on pourrait dire que dans ce cas, c'est comme si ce pouvoir était la tête, le cerveau de ce corps. Plus loin dans les mêmes passages, on trouve une définition intéressante que j'ai déjà soulignée. Le pater familia, c'est celui qui a la domination sur son domaine, dominium dans la domus. Cela récupère un peu le sens patrimonial qui était le premier dans le schéma, c'est-à-dire un peu l'idée de bien qui appartient au père de famille. On peut effectivement se dire que par ce biais, Ulpien veut montrer que le père de famille est bien celui qui a le pouvoir sur les personnes qui forment sa famille, mais c'est aussi celui qui a le pouvoir patrimonial sur les biens qui font partie de sa famille. Donc, Ulpien est en train de récupérer les deux volets de cette position, définition du père de famille. Ensuite, Ulpien, comme je viens de vous montrer, nous montre que cette famille, à un moment donné, va éclater à la mort du détenteur du pouvoir, du père. Elle éclatera en autant de familles qu'il y a des têtes, des capita, vous voyez ici, des chefs. Alors, ce mot « chef », s'agit d'une synecdoque utilisée ici dans un sens métaphorique, la tête pour désigner un individu, synecdoque, mais aussi pour dire métaphoriquement qu'il s'agit des personnes destinées à avoir un rôle juridique à leur tour, celui des chefs de leur propre famille. Et pour revenir sur partie en propos que j'avais déjà souligné, il en sera de même chez l'émancipé, car même celui-ci étant devenu de son propre droit, il a sa propre famille, donc il ne faut pas attendre effectivement toujours la mort du père de famille. On peut sortir aussi, s'il le veut, bien évidemment, de son pouvoir, de son vivant. Ici, plusieurs parmi vous ont remarqué qu'il s'agit encore d'une terminologie métaphorique, parce que l'émancipation fait référence à la manus, à la main, au pouvoir, disons le pouvoir du père, et ici, disons, exprimé par cette idée de la main qui pèse sur ceux qui sont soumis à son pouvoir. Et donc l'émancipation, c'est sortir de ce pouvoir, s'éloigner de la main du père. Alors, il faut le dire, ce pouvoir, comme tout pouvoir, laisse toujours une trace. On ne peut pas, une fois qu'on a été un peu marqué par le pouvoir, ça reste un peu. Et effectivement, c'est un peu le destin de cette famille, parce que même s'il devient de chef de famille à la mort du père, il reste quand même en lien. Tous ces chefs de famille forment une grande famille élargie qu'on appelle comuni iure familia, donc sur un droit commun. Et donc on a plusieurs niveaux d'efficacité de ce pouvoir, mais c'est quand même un pouvoir qui ne cesse jamais de produire des effets. Alors, retrouvons, je sais que vous êtes soulagé de pouvoir, réordonner, réagencer votre pensée par rapport à ce chemin. Donc, je pense que vous comprenez que le mot « corpus » est pris ici dans un sens assez neutre, comme un groupe de personnes, tout comme on peut dire d'une légion qu'elle est un corps de soldats. C'est une notion que nous développerons davantage la semaine prochaine. Alors, cette notion anodine un peu de corps, nous avons vu que ce qui unit les individus qui forment à différents titres ce corps, c'est le pouvoir présent ou passé d'un père de famille. Alors, un point doit être souligné, ce passage, c'est un passage célèbre, a souvent été lu comme décrivant une trame historique, presque une évolution de l'humanité. En particulier, on a pensé que ce texte indiquerait la priorité de la famille restreinte sous le pouvoir d'un père, puis la dispersion en groupes plus larges, un réseau parenté que l'on appelle la famille agnatique, c'est la famille comuni iure, dont la caractéristique serait justement de lier tous ceux qui sont actuellement ou seraient sous le même père de famille s'il était vivant ici. Je ne sais pas quelle est votre impression, mais je ne crois pas du tout qu'Ulpien ait voulu retracer une évolution historique. Alors d'abord, je ne pense pas qu'Ulpien disposait d'informations sur les origines des Roms beaucoup plus, disons, approfondies que nous en avons. D'abord, donc, cette évolution à l'aube, aux origines de l'humanité. Alors, d'abord. Mais ensuite, je pense qu'il faut vraiment lire un texte pour ce qu'il est, et par les biais de sa logique. Donc, s'il a une logique, il faut vraiment suivre cette logique. Et je pense que vous avez bien compris qu'Ulpien procède par des divisions et que lorsqu'il entame, il emprunte ce chemin de la description de la famille en tant que personne, ce qui pourrait être, disons, le volet évolution de l'humanité, ce qu'il fait n'est autre chose que de procéder par élargissement progressif. Donc c'est une démarche quantitative. C'est purement logique. Il essaye de définir, de, disons, de donner une sorte de système au lexique par les biais d'un élargissement progressif des notions qu'il est en train de définir. Donc il n'y a rien d'historique ici, il n'y a que de la logique et de la présentation de ce système sémantique par les biais de divisions qui dessinent cet arbre. Alors, cette trajectoire quantitative qui va d'une personne comprise individuellement en groupe progressivement plus nombreux de personnes, alors, pour revenir un mot sur ce que je viens de dire, pourquoi ici également on pense voir dans ce texte une histoire de l'humanité, c'est parce que d'abord, on a des images nous-mêmes. Alors, donc, nous croyons comprendre comment l'humanité s'est développée. Donc, nous croyons le revoir dans ce texte. Mais surtout, c'est une question, encore une fois, de style de recherche. Il y a des personnes qui interrogent ce texte comme s'il s'agissait d'un document historique. Et c'est là le problème. C'est un texte juridique. Qui a un but précis, celui d'organiser le vocabulaire de la famille pour des objectifs qui sont de l'interprétation des normes juridiques. Donc, c'est toujours, lorsqu'on regarde, on lit un document, il faut toujours poser des questions auxquelles ce document peut répondre. Alors, cette trajectoire quantitative que je viens de vous montrer, qui va d'une personne comprise individuellement à un groupe progressivement plus nombreux de personnes, se poursuit et culmine au paragraphe 4 de ce texte, dernière partie du texte d'Ulpien, où il dit « On appelle aussi une famille un corps de plusieurs personnes qui procèdent du sang du même dernier parent, par exemple, nous disons ainsi la famille Julia, presque comme d'une sorte de source de mémoire. Alors, vous voyez, ce texte très court nous donne encore une autre, une dernière définition de qu'est-ce qu'une famille. Alors, ce corps qu'est la famille, peut être, disons, définie par le lien qui s'instaure grâce au pouvoir d'un père actuel ou passé qui avait le pouvoir sur les membres de ces groupes familiaux, ou ce corps peut être défini par ce lien de sang. C'est un autre, encore, une autre, disons, un autre critère qui crée un lien. Et c'est un lien qui produit un groupe encore plus élargi. Donc vous voyez cette logique d'élargissement. Alors, d'abord, le mot « corps » ne se trouve pas dans le latin, mais il faut le sous-entendre parce que sinon, du point de vue syntaxique, ça ne tient pas. Donc, j'ai aucun doute qu'il avait en tête le mot corps. Alors, ce qui est frappant, c'est que ici, l'idée de corps n'est pas seulement une notion abstraite, un groupe d'individus, comme dans les cas précédents. Corps, c'était presque un synonyme de groupe. Cette fois-ci, il s'agit d'un corps traversé par un sang commun. Vous souvenez que je disais que lorsque on parle de corpus, l'imaginaire, au fond, est celui d'un organisme, du body politic. Nous voyons cette idée résurgir ici, car les métaphores, même lorsqu'elles sont mortes, quand dans le cas de corps ici, peuvent revenir à la vie. Alors, si dans la partie précédente du fragment, le mot corpus était plutôt désincarné, maintenant il redevient un corps humain traversé par les sangs, découlant d'un progéniteur. C'est un cas dans lequel, par ailleurs, les juristes romains donnent plus de place au sang masculin qu'au sang féminin, les deux étant normalement considérés comme contribuant à l'identité de l'enfant. Les deux. C'est quelque chose, par exemple, qui a été très bien démontré par Philippe Moreau. Donc, normalement, c'est le sang de deux parents, masculin et féminin, mais ici, c'est plutôt, disons, c'est l'idée d'une descendance du côté masculin. Or, le plus intéressant arrive maintenant, précisément avec les derniers mots du passage, et aussi, je vous promets, dernière minute de notre séance. Que signifient ces derniers mots ? À première vue, tout va bien, presque comme s'il s'agissait d'une sorte de source de mémoire, pour les latinistes, quasi a fonte quodam memoriae. Donc vous voyez la structure, la famille est faite de plusieurs personnes, lesquelles descendent, sont issues du sang du même dernier progéniteur. Ensuite, il y a cette parenthèse, vocation de la famille Iulia. Ensuite, quasi, presque comme d'une sorte de source de mémoire. Alors, la syntaxe semble poser quelques problèmes, et donc Theodor Mommsen a proposé de corriger quasi a fonte et odem orte, donc en corrigeant quodam memoriae de cette façon. Alors, c'est toujours génial, Mommsen, donc vous voyez, c'est une correction assez limitée, mais vraiment très, très pertinente. Donc, la syntaxe est bien réparée, mais pourquoi, je me demande, Ulpien aurait répété de façon diluée ce qu'il avait dit de façon plus forte en évoquant le sang? Parce que par le biais de cette correction, presque originée d'une même source. Il avait déjà évoqué le sang, pourquoi une source, oui, liquide, mais c'est de l'eau. À mon sens, il est vraiment dommage de supprimer le mot mémoire. La mémoire est souvent considérée dans le monde romain comme un élément constitutif de l'identité d'un groupe familial élargi. Je pense aussi, aujourd'hui, quand on se retrouve, heureusement, avec nos parents les plus éloignés, qu'est-ce qui nous lie sinon la mémoire commune? Et ce groupe familial élargi est ici illustré par la famille, ou plutôt la gens, Iulia, qui renvoyait au mythique Iule, le fils d'aîné. À cette famille appartenait Jules César, par adoption, l'empereur Auguste. Donc, La source dont Ulpien parle ici est ce progéniteur le plus éloigné. Mais je comprends encore une fois pourquoi les chercheurs ont essayé de corriger ce texte en supprimant le mot « mémoire », parce que ce mot semble déplacé dans un texte d'un juriste sérieux. Les métaphores sont toujours des mots un peu déplacés. Donc, elle éveille des soupçons. Mais je crois que pour le lecteur d'Ulpien, en revanche, tout était clair et simple. Rappelons que l'exemple qu'Ulpien donne de ce type de famille élargie, qui remonte à un dernier géniteur mythique, est celui de la famille ou de la gens Iulia. Je pense que ces quelques mots suffisaient à ouvrir la voie. La gens Iulia est l'un des thèmes dominants de l'Énéide de Virgile. Virgile raconte l'arrivée d'Énée dans le Latium, puis les exploits de Iule, parfois appelé aussi Ascagne, et sa perspective est de relier ses origines et ses personnages à la figure d'Auguste, le prince qui, quand Virgile écrivait, était en train de devenir le maître du mont romain. Les lecteurs d'Ulpien connaissaient l'Énéide presque par cœur, mais pour nous aussi, si on y pense, c'est quelque chose d'évident. Alors, je n'ai pas le temps de citer beaucoup d'endroits et des lieux de l'Énéide, mais permettez-moi de citer Sévère. Au livre 6, Énée se livre à son voyage, catabase, au pays des morts, célèbre voyage, pays des morts, et rencontre son père Anchise. Ce dernier lui montre les âmes de ses futurs descendants. Donc, c'est le voyage au pays des morts, mais c'est le moment où il montre aussi les âmes qui vont devenir ses futurs descendants. Maintenant, Énée tourne les yeux de ses côtés, voit cette gens et terre romain. Voici César et toute la descendance de Iule, qui un jour apparaîtra sous l'immense voûte céleste. Ce héros, c'est lui que si souvent tu entends dire qu'il t'est promis, Auguste César, né d'un dieu. Alors, Anchise, dans la fiction du récit, dévoile à son fils aîné le futur, il lui montre les descendants, ses descendants, mais qui sont les descendants de Iule, qui est le fils d'Aîné, et notamment César. On comprend ici, il y a une double évocation d'Auguste, c'est un peu discuté, mais je pense que c'est deux fois Auguste. Alors, dans la fiction, c'est le futur, mais dans la réalité, Virgile présente une histoire déjà accomplie, rétrospective, et c'est justement cette histoire, donc la mémoire qui découle du dernier progéniteur, de Iule, qui fait que les Iulii se considère comme une famille au sens large, une gens. Et donc, lorsque Ulpien écrit ces mots et qu'il évoque la famille des Iulii et la mémoire, l'esprit des lecteurs se tourne aisément vers l'Énéide et il comprend ce qu'il veut dire. Alors, les métaphores dans le discours d'un juriste sont parfois un signal, une porte qui ouvre sur une autre dimension littéraire, comme ici, du moins si l'analyse que je vous ai proposée est correcte. Il est temps de conclure. Nous avons vu aujourd'hui combien le corps a des significations différentes. Corps humain, corps animal, tout objet matériel, défini par sa capacité à toucher, à être touché encore, disposé de trois dimensions. Corpus s'est aussi présenté comme un nom abstrait, indiquant métaphoriquement un ensemble d'individus distincts, mais néanmoins liés, par exemple, par les pouvoirs actuels ou passés du père de famille. Mais nous avons aussi vu que quand on dit corps, la métaphore de l'organisme couve sous les cendres et le corps, corpus abstrait, est prêt à reprendre vie, à reprendre sang et à reprendre aussi mémoire, l'esprit. Un corps, et surtout, nous avons vu que le corps peut servir à définir des choses qui n'existent pas, en disant précisément qu'elles sont des choses sans corps, des incorporelles, telles l'héritage. Bref, nous nous rendons compte que les métaphores sont une forme d'expression qui, à différents niveaux de conscience, forme la structure de la pensée et du langage. Mais les corps ne servent pas seulement à nommer, ils servent aussi à résoudre des problèmes, comme nous le verrons lors de notre prochaine séance, en essayant de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait que je suis le même aujourd'hui et il y a une semaine? Nous répondrons précisément dans une semaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.